Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce devrait être fin février, on ne sait pas exactement quand et on ne sait pas encore où avec une totale certitude, c'est donc encore assez imprécis. Mais l'objectif d'un deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un est affiché, c'est que les choses n'ont pas beaucoup avancé depuis leur rencontre historique de la fin du printemps dernier à Singapour. On ne voit pas très bien quelles avancées ont été faites vers la dénucléarisation de la Corée du Nord et les sanctions économiques contre le pays sont toujours là. Les relations entre Donald Trump et Kim Jong-un ressemblent beaucoup à une partie de poker menteur. Où en est le bras de fer entre la Corée du Nord et les États-Unis? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste des États-Unis, auteur de l'ouvrage « Les Américains, les États-Unis de 1607 à nos jours » aux éditions du Seuil, c'était en 2014, et de « La Nation armée », ce sera à paraître aux éditions de l'Observatoire au mois de mai. Et Dorian Malovic, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service Asie au quotidien La Croix, co-auteur de « Le Monde selon Kim Jong-un » aux éditions Robert Laffont en 2018 et de la Corée du Nord en 100 questions aux éditions Talendier. D'abord, messieurs, est-ce que vous partagez le constat que je viens de faire sur le quasi statu quo de la situation depuis le sommet de Singapour? André Caspi.
Oh, incontestablement, ça n'a pas beaucoup avancé. Il y a eu des échanges, parfois un peu vifs, mais tout ce que l'on peut dire, c'est que pour l'instant, on en est au point mort. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'on ne va pas avancer, puisque aussi bien, je sais que de la part de Donald Trump, il y a la volonté de faire bouger les choses. Alors, j'espère que du côté de la Corée du Nord, il en est de même, mais cela veut dire au fond qu'il faut s'attendre sans doute à quelque chose de nouveau. Et cela pour deux raisons, si vous me le permettez.
Bien sûr.
La première raison, elle est de politique intérieure, c'est-à-dire que pour Donald Trump, c'est essentiel de remporter une belle victoire internationale, de montrer qu'il est capable, en somme, de négocier et d'obtenir satisfaction du côté de la Corée du Nord. Et puis, d'autre part, compte tenu de sa politique en Extrême-Orient, de ses relations avec la Chine, de ses relations avec la Corée du Sud, le Japon et la Corée du Nord, il est évident que la réussite des relations avec Kim Jong-un lui paraît essentielle.
Dorian Malovic, on est passé effectivement avant le sommet de Singapour d'un état de très forte tension avec des tirs de missiles balistiques, des essais nucléaires, à quelque chose de beaucoup plus, on pourrait même dire cordial, mais finalement depuis ça n'avance pas tellement.
Hein. Non, alors, en deux mots, 2017 on est au bord de la guerre, 2018 réchauffement de toutes parts sur la péninsule, sommet en juin 2018 avec Donald Trump et Kim Jong-un, depuis... Certains y voient une impasse totale, d'autres y voient évidemment une sorte de statu quo, une sorte de suspension du temps. Bon, je pense qu'on peut déjà souligner que les choses ne se sont pas aggravées. Hein, il n'y a pas eu un drame, il n'y a pas eu quelque chose qui aurait pu provoquer de nouvelles tensions. Il était évident qu'un deuxième sommet, je dis bien deuxième, sachant qu'il peut y en avoir un troisième, ne pouvait se tenir que s'il y avait sur la table des choses enfin beaucoup plus concrète que pour le premier n'étant pas totalement anodin quand même, c'est historique, on peut l'appeler le sommet qui a brisé la glace entre ces deux nations, quand même en guerre depuis 1953, hein, depuis la fin de la guerre de Corée.
Juridiquement, le rapport, c'est juste un armistice, hein. Ils sont en état de guerre.
Alors, les deux Corées sont techniquement en guerre, il y a eu l'armistice, il n'y a pas de traité de paix, donc. C'est vrai que cette situation-là, elle était gelée. Aucun président américain n'avait jusque-là été jusqu'à rencontrer son homologue nord-coréen. Et c'est vrai que Trump, quoi qu'on en pense, a quand même rompu quelque chose. Comme il a rompu un statu quo de guerre froide, un des derniers points de la guerre froide dans le monde, en allant rencontrer Kim.
Lors de sa dernière entrevue avec le représentant du numéro 1 nord-coréen, le président américain a affirmé « Nous avons enregistré de grands progrès sur le plan de la dénucléarisation ». Selon vous, André Caspi, même si c'est parfois difficile d'interpréter la pensée de Donald Trump, il pense à quoi ?
Je me le demande. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas eu de progrès. Ouais. Simplement, Kim Jong-un a dit qu'il allait vraisemblablement fermer l'une des usines de production nucléaire en Corée du Nord, mais d'abord on ne sait pas très bien s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait, et ensuite on ne sait pas très bien à quoi servait ce lieu de production. Mais il est évident que pour Donald Trump, il faut absolument qu'il obtienne satisfaction. Parce que, comme il vient d'être dit, les présidents des États-Unis qui ont précédé Donald Trump ont tous échoué. Et celui qui a échoué peut-être de la manière la plus spectaculaire, c'est Bill Clinton. Parce que Bill Clinton avait négocié
il était pas loin, hein.
En 1994 avec le père de Kim Jong-un.
Kim Il-sung.
C'est-à-dire que il avait, en somme, établi une sorte de modus vivendi qui est tombé à l'eau. Et cela fait que Donald Trump a repris les choses en main et il espère bien faire mieux que son lointain prédécesseur démocrate. Car n'oubliez pas que c'est à la fois pour les États-Unis un problème intérieur et un problème international.
Mais de la même façon, ce que je dirais, c'est que Trump doit maintenir un discours optimiste. Il doit maintenir une narration qui, même si elle est inexacte, doit toujours être dite, et que cette vérité, ce discours affirmé devient discours de vérité, même si personne n'est dupe. Et je crois quand même que jusqu'à présent, on est face à un grand marché de dupes en parlant de dénucléarisation, parce que bon, Trump, il est comme il est, mais ceci dit, il sait très bien que l'idée de dénucléariser avant tout pour la Corée du Nord afin de faire progresser les choses, c'est absolument impensable. Donc là, les concessions demandées vont devoir un petit peu changer.
Les deux pays sont carrément pas d'accord en fait sur la définition de la dénucléarisation, André Caspi.
Non, ils ne sont pas d'accord, mais je crois qu'il y a chez Trump aussi une autre obsession. C'est de faire revenir aux États-Unis les troupes qui sont stationnées en Corée du Sud. Alors il y a actuellement entre 26 et 28 000 soldats américains qui continuent en somme à monter la garde. En Corée du Sud, je vous signale que les États-Unis sont présents en Corée depuis 1950. La guerre s'est terminée en 1953, mais depuis 1953, il y a des troupes, je ne peux pas dire d'occupation, mais en tout cas des troupes américaines qui sont là pour assurer la sécurité de la Corée du Sud. Or, l'obsession de Donald Trump, c'est précisément de faire revenir ces troupes, parce que, je le répète, même si c'est pour la troisième fois, c'est une question de politique intérieure. Ça fait partie de son programme électoral.
C'est l'un des grands axes de sa politique étrangère, parce que la présence en Syrie, c'est un peu la même chose. C'est faire revenir les boys.
C'est-à-dire qu'au fond, il ne veut pas. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est de dire je ne veux pas payer pour les autres. Par conséquent, il n'y a aucune raison que les Américains dépensent de l'argent pour maintenir des troupes ailleurs. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est particulièrement populaire de montrer qu'il n'est pas nécessaire que les États-Unis continuent à maintenir des unités militaires aussi loin, dans des conditions qui sont évidemment très difficiles. Et d'un autre côté, ce qu'on peut dire, c'est que face à la Chine, 26 000 ou 28 000 soldats américains, ça n'est rien, ça ne sert à rien. Mais c'est simplement symbolique.
Il y a eu des manœuvres américano-sud-coréennes, il y en a tous les ans, hein, qui étaient cette année un petit peu réduites.
Suspendues.
Ou suspendues. Dorian Malovic, c'est quoi le message? C'est une ouverture
Quand vous avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qui avait peut-être changé ou évolué, c'est-à-dire que quand même, sur le terrain, il y a eu vraiment un apaisement. Un apaisement fondamental, c'est-à-dire quand même du côté américain, on a suspendu les manœuvres conjointes avec la Corée du Sud, il y a plus de survol de la péninsule avec les bombardiers qui partent de Guam, parce que bon, il y a quand même la force pacifique américaine dans le Pacifique, et que évidemment pour la Corée du Nord, parce que de ce côté-là, ça a été aussi perçu comme des volontés d'apaiser quand même la Corée du Nord, elle veut avoir un sentiment de sécurité. C'est-à-dire, même en laissant quelques milliers de soldats américains au sud, ça ne poserait pas tant de problèmes que ça à la Corée du Nord, en réalité. Mmh. Quand on parle de dénucléarisation, la Corée du Nord dit dénucléarisation de la péninsule. C'est-à-dire que pas seulement Bah, d'abord, on ne sait pas s'il y a des armes nucléaires dans le Sud. Normalement, il n'y en a plus, déjà, depuis plus de 30 ans.
Ça, c'est ce que sous-entend la Corée du Nord. Hein. Ils parlent de la dénucléarisation de toute la péninsule. Sous-entendu, il y en a peut-être un petit peu ailleurs.
Mais, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a aussi les forces de Guam. Hein. Elle inclut ça dans son discours. Elle veut une sécurisation. Donc ça, c'est ce qu'elle entend par ça. Trump, dénucléarisation, ça veut dire démantèlement. Alors, la grande phrase de l'année dernière, c'était vérifiable, total, éternel, dénucléarisation.
Irréversible.
Et aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler de ça. On voit bien que la narration, hein, encore une fois, a évolué. Sur le fond, on sait très bien que ça dénucléarisera pas du jour au lendemain. Ça n'est pas possible. Les plus grands techniciens américains savent que ça va prendre 15-20 ans. Et que là, aujourd'hui, effectivement, il va falloir faire des concessions. Et c'est vrai que ce sommet, il va falloir que ce soit du concret.
Donald Trump, sur cette histoire de progrès dans la dénucléarisation, ouais. est contredit par ses propres services de renseignement, qui l'ont contredit devant le Sénat hier, pour lesquels il est peu probable que la Corée du Nord abandonne toutes ses armes nucléaires, André Caspi. Ça veut dire que, là aussi, il a besoin d'un succès pour montrer à ceux qui sont après lui qu'ils ont tort.
Oui, mais d'un autre côté, ce n'est pas la première fois que Donald Trump va à l'encontre des affirmations de ses services de renseignement.
Il en fait même peut-être un principe.
Hein. Il l'a déjà dit une fois lorsqu'il était en Russie, il le dit maintenant en ce qui concerne la Corée du Nord, c'est-à-dire qu'au fond, il veut montrer qu'il a tout à fait confiance dans Kim Jong-il. Vous savez, Donald Trump... C'est l'homme qui a écrit « The Art of the Deal », c'est-à-dire « L'art de négocier ». Alors, quand on a écrit cela, ça veut dire qu'on a toute une technique pour négocier avec son adversaire ou avec son concurrent, comme vous voulez. C'est-à-dire que il faut d'abord le menacer... Donc, il l'a menacé en 2017, en 2018, en annonçant le feu et la furie, en dénonçant le petit homme roquette, enfin bref, tout ce que l'on sait sur les relations entre les deux hommes. Et puis après, ça veut dire que il est capable, en somme, de jouer celui qui serait le fou, c'est-à-dire le président fou, qui pourrait déclencher la guerre nucléaire, pour faire peur, et puis on passe ensuite à la négociation. Donc vous voyez, il y a quand même chez Donald Trump une sorte d'astuce, de stratégie pour inciter l'autre à négocier et à accepter un certain nombre de résultats.
L'autre, justement, Dorian Malovic, quels signaux envoie la Corée du Nord ? Les vœux de Kim Jong-un ont été l'occasion de dire qu'une autre méthode était possible pour défendre les intérêts de la Corée du Nord. C'est une semi-menace, une menace voilée ?
C'est toujours pour le Nord de montrer qu'il ne compte pas uniquement sur le dialogue et les échanges avec Donald Trump et les États-Unis. C'est pour montrer qu'ils ont d'autres interlocuteurs régionaux très importants. Après ce discours, premier voyage de Kim Jong-un, c'est la Chine. Et évidemment, comme l'année dernière, évidemment, je vous rappelle que la Chine est un des signataires de l'armistice. Hein, et c'est-à-dire que rien ne se fera à court terme ou moyen terme sans la Chine. Et on va en Chine, on a un partenaire chinois qui, lui, n'observe pas, respecte pas totalement les sanctions. Parce qu'il faut quand même arriver à parler des sanctions de l'ONU.
On va en parler, oui, bien sûr.
Évidemment, et là, la Chine, elle est partenaire, elle est là, elle ne veut pas que la Corée du Nord, qui n'a plus lancé de missiles, n'a plus fait d'essais nucléaires, a démantelé quelques petits morceaux de son arsenal, des sites dans le nord, un petit morceau de sites de missiles dans le sud. Donc ça, pour eux, et ils ont autorisé des fouilles, des dépouilles de soldats américains, ce qui, là encore, qui était dans la déclaration de Singapour. Pour Trump, c'est très positif. Hein. Il peut dire, quand il dit, voilà, il exagère, il dit, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de crainte de la Corée du Nord. En réalité, c'est pas totalement faux. Il a maîtrisé la chose. Il n'y a plus de tests de missiles intercontinentaux. Alors, évidemment, pour les Américains, c'est bien, parce que les moyens, les missiles de moyenne portée ou de courte portée qui peuvent toucher la Corée ou le Japon, ça ça l'intéresserait peut-être moins. Donc, ceci dit, tout ce discours-là fait que, finalement, la Corée du Nord n'est pas toute seule, la Russie est toujours là, et que c'est lui montrer, on peut discuter, mais au moins je peux continuer à vivre sans vous.
Oui, le voyage en Chine en train présidentiel, train privé de Kim Jong-un, en pleine négociation commerciale sino-américaine. Ce jour-là, le représentant américain était sur place. C'est également un message aux États-Unis, André Caspi.
Oui, parce que, comme on vient de le dire, il est évident que les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord s'inscrivent dans une perspective beaucoup plus large. Et en particulier dans la perspective des relations entre les États-Unis et la Chine. Donc la Chine tient une place essentielle dans cette affaire. Et il est évident aussi que Donald Trump a compté sur la Chine pour faire pression sur Pyongyang. Alors, est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce qu'il n'y est pas arrivé? La Chine n'est pas un instrument que Donald Trump peut manipuler à sa guise.
Ni la Corée du Nord.
Donc ça veut dire que il fait pression peut-être, mais la pression réussit ou ne réussit pas. Donc tout cela ensemble pour montrer que l'intérêt principal au fond de toute cette affaire, c'est de souligner l'importance aujourd'hui dans les relations internationales des États-Unis de cette partie du monde. Ce ne sont pas les relations avec l'Europe, mais ce n'est même pas les relations avec la Russie, mais c'est en somme dans cette partie du monde que se joue vraiment l'histoire des relations internationales aujourd'hui.
Dorian Malovic, vous voulez rebondir là-dessus?
C'est vraiment quand on parlait, vous savez, là en 2017, en 2018, on disait que évidemment les Américains avaient peur de la Corée du Nord, etc. En réalité, la Corée du Nord, c'était l'arbre qui cachait la forêt chinoise, en réalité. Parce que pour le grand danger dans toute cette région, pour le Japon,
c'est le point de confrontation dans la région, quoi. Voilà,
exactement. Mais il faut quand même dire que toutes les cartes ont été rebattues depuis un an dans la région. Les priorités des uns ont changé. Je veux dire, la Corée du Sud, on en parle deux secondes. Le rapprochement entre les deux Corées est historique. L'année dernière, pacification, destruction des postes frontières, bureau de liaison Corée du Nord, Corée du Sud.
Et des sommets, il y en a eu trois.
Les Jeux Olympiques. Mais si vous voulez, ce qu'ils veulent montrer le Nord, c'est que, en montrant encore une fois ce que je disais sur la multiplicité des relations, c'est-à-dire que le Nord dit, nous, regardez, nous, Coréens, on arrive à se débrouiller pour pacifier les choses, on n'a pas besoin de vous. Vous voyez, enfin, on y arrive, concrètement. Et là, pour le Sud, il faut que les sanctions soient levées. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, pour le Nord aussi.
La réponse américaine, c'est donc effectivement le maintien rigoureux des sanctions. Ça, c'est dit officiellement, André Caspi. C'est quoi le message américain? C'est-à-dire qu'il faut quand même donner un petit peu plus?
C'est-à-dire que maintien des sanctions tant qu'il n'y a pas de résultats qui sont obtenus du côté de la Corée du Nord. Si subitement, Kim Jong-un décidait de dénucléariser le pays, ce qui est invraisemblable d'ailleurs, mais à ce moment-là, les sanctions seraient levées. Mais d'un autre côté, il est évident que les sanctions peuvent être levées partiellement pour montrer en somme un minimum de bonne volonté à l'égard du régime de Pyongyang, mais à condition bien sûr que de l'autre côté il y ait quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais l'art de la négociation qui est à la base même de la diplomatie de Donald Trump.
Il nous reste très peu de temps, on parle du Vietnam pour ce deuxième sommet, même si ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Là aussi il y a un message, c'est un pays communiste qui décolle économiquement, un pays où les États-Unis ont été battus militairement. Là, le choix du pays n'est pas totalement innocent, Dorian Malovic.
Mais c'est intéressant parce qu'on a été à Singapour, d'accord? Un pays où les deux pays, Corée du Nord et États-Unis, ont très bonnes relations. C'est la même chose pour le Vietnam. Historiquement, les relations avec les États-Unis se sont refaites. Ça pourra se passer à Da Nang. Da Nang, quand même, lieu historique pour les Américains, c'est les grosses bases américaines. Ce qui est intéressant, c'était aussi important pour le Vietnam, c'est que pendant la guerre contre les États-Unis, vous aviez des pilotes nord-coréens qui étaient du côté vietnamien. On le sait moins, mais c'est aussi intéressant. Et il y a des très bonnes relations avec le Nord. Donc, ça se passera au Vietnam, c'est sécurisable et c'est stratégiquement et logistiquement facile pour le Nord d'aller là-bas.
Merci Dorian Malovic, merci à vous également André Caspi, merci d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Charles Barré à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Vous pouvez participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.